Chapitre 25. Yuna et Eric sont accueillis dans le hall impersonnel par une assistante de recherche aux lunettes teintées. D'une voix discrète, elle les guide jusqu'à l'unité le long d'un couloir au sol en plastique brillant. Un bureau, un autre bureau, la salle commune, la chambre d'un patient, la réserve, encore la chambre d'un patient, et enfin la grande suite, énumère-t-elle en ouvrant la porte bleue d'un appartement. Vous pouvez entrer, ils vous attendent dans le salon. Merci. Ils traversent une petite entrée avant de pénétrer dans une pièce tamisée aux rideaux tirés. Une télévision éteinte est fixée au mur. Hugo, les cheveux relâchés, est assis dans un fauteuil face à un homme mince au crâne chauve et au visage anguleux. Sur la table basse, une boîte de snus est posée entre deux verres d'eau et un bol de clémentine. L'homme se lève avec un sourire pour les accueillir, se présentant simplement comme Lars, sans mentionner qu'il est à la fois médecin-chef et directeur de recherche. Il porte des mocassins aux talons affaissés et un sweatshirt bleu qui met en valeur le bleu chardon de ses yeux. « C'est un honneur, » dit Lars en serrant la main d'Eric. « J'ai suivi votre travail au fil des années. Très impressionnant. »«
Merci, » dit Eric chaleureusement.
« Nos domaines sont liés, » explique Lars Grint à Yuna. Le mot « hypnose » vient en fait du mot grec ancien pour « sommeil ».«
Il enseignait avant, » précise Hugo en grattant les tatouages sur son avant-bras gauche.
« Bonjour, » dit Yuna. Tandis qu'il s'asseye, Lars explique brièvement que la suite est conçue pour ressembler à un appartement ordinaire, mais qu'elle est adaptée aux somnambules, avec des capteurs de mouvement et des caméras au plafond.
« Tout le monde veut accéder à ce qu'il y a là-dedans, » dit Hugo en pointant son crâne. « J'aimerais que vous puissiez juste l'ouvrir comme un œuf et fouiller l'intérieur avec une cuillère. »
« Eric Maria Bark est la personne qui se rapproche le plus de ça, » sourit Lars Grint.
« Désolé, je sais que vous êtes venu de Stockholm, » dit Hugo, « mais je suis pas sûr de croire à l'hypnose. »«
On me le dit souvent, » répond calmement Eric.
« Mais il n'y a pas vraiment à y croire. Ce n'est ni magique ni spirituel. L'hypnose est simplement une méthode avérée pour atteindre un état de relaxation physique et de concentration mentale. C'est un peu comme quand on regarde un film captivant. On oublie qu'on est assis dans une salle de cinéma devant un écran. C'est à peu près ça, l'hypnose. Sauf qu'au lieu d'être absorbé par une histoire, on utilise cette concentration intérieure pour explorer nos souvenirs.
Hugo s'appuie contre le dossier du fauteuil et se dit que Yuna et Eric ont l'air sympathiques. Il est évident qu'ils font attention à bien se comporter avec lui parce qu'ils sont persuadés qu'il peut les aider. Mais il est bien conscient qu'ils ne sont définitivement pas de son côté. Il ne doit pas se faire d'illusions. Il sent bien que Yuna n'a pas encore complètement écarté l'idée qu'il pourrait être impliqué, tandis qu'Eric, lui, semble presque frémir d'excitation à l'idée de pratiquer l'hypnose.
« Quel serait le meilleur endroit pour la séance ?» demande Lars.
« Ici, ça ira, si on baisse un peu les lumières, » répond Eric.
« Je ne dois pas m'allonger ?» demande Hugo.
« Si tu veux, mais tu peux aussi juste t'asseoir confortablement. »
« Ok, mais... comme je l'ai dit, ne soyez pas déçus si ça fonctionne pas. »
Yuna va jusqu'à l'interrupteur mural et éteint les lumières du plafond, puis revient vers le groupe et baisse l'intensité de la lampe sur pied.
Je tiens à préciser qu'on peut bien sûr résister à l'hypnose. Ce n'est pas comme une anesthésie, explique Eric. Ta participation est essentielle, et le fait même que ce soit volontaire a toute son importance. Tu dois savoir que tu peux interrompre la séance à tout moment.
« Essayons, » sourit Hugo en attachant ses cheveux en queue de cheval.
« Je serai tout le temps là pour te guider vers la relaxation et la concentration. »«
D'accord. »
« Assieds-toi confortablement, les deux pieds bien à plat sur le sol, les mains posées sur les accoudoirs, » dit Eric d'une voix chaude. « Ferme les yeux et respire calmement. Inspire par le nez. » Expire doucement par la bouche, paisiblement, tranquillement. il poursuit d'un ton doux et régulier. Sens le poids de tes pieds, complètement relâché. En équilibre avec tes cuisses appuyées contre le siège. Ton dos détendu qui repose confortablement contre le dossier.
Hugo se souvient d'avoir fait un exercice similaire pendant les cours d'éducation physique à l'école. C'est assez fascinant de constater à quel point il est facile de déplacer son attention d'une partie du corps à une autre pour vraiment se détendre. Il esquisse un léger sourire en pensant à la manière dont les trois hommes autour de lui prennent l'hypnose au sérieux.
Sens tes paupières devenir un peu plus lourdes à chaque respiration.
Il ne peut s'empêcher de trouver la situation légèrement comique. Assis dans un fauteuil, les yeux fermés, essayant de suivre à la lettre ce qu'Éric lui dit.
Sans se presser, Éric le guide à travers chaque zone de son corps, jusqu'au visage. Pas de sourire, pas de mâchoire crispée, pas de front plissé.
Écoute simplement ma voix, murmure Éric. Tu n'as pas besoin de penser à quoi que ce soit d'autre maintenant. Tu es profondément détendu. Si un autre son vient à toi, laisse-le passer. Il ne fera que renforcer ton calme et ton attention à ma voix.
Hugo se surprend à se sentir réellement apaisé par le timbre chaud et grave d'Éric. Il y décèle une légère rugosité qu'il trouve agréable. Peut-être a-t-il été fumeur, ou peut-être est-ce simplement dû à son âge.
Je vais maintenant commencer à compter à rebours, dit Éric. Et tout ce que tu as à faire, c'est écouter attentivement. À chaque nombre que tu entends, tu expires, et tu plonges un peu plus profondément dans ta relaxation. 98 97
Hugo croit d'abord qu'il respire mal, que son rythme est décalé. Mais bientôt, il n'y prête plus attention. Il trouve son propre tempo et s'aperçoit qu'il s'accorde naturellement avec le décompte.
Tout est confortable maintenant, poursuit Éric d'un ton calme. Tout est agréable. Tu écoutes ma voix avec attention. Tu entends les nombres, les uns après les autres. Et en même temps, tu t'imagines descendre un long escalier. À chaque nombre, tu fais un pas de plus vers le bas, et ton corps devient plus calme, plus détendu. 77, 76, 75.
Hugo essaie de suivre du mieux qu'il peut. Il pense d'abord à l'escalier de sa maison, puis à des escaliers d'hôtel couverts de tapis rouges. Mais bientôt, sans comprendre pourquoi, il se retrouve à descendre un escalier en colimaçon qu'il n'a jamais vu auparavant. Il est en métal gris clair et mène droit sous terre. Au rythme de sa respiration et du compte à rebours, Hugo descend prudemment les marches. Mais il sent que l'escalier vacille légèrement sous ses pas.
Tu continues à descendre l'escalier, marche après marche. 64. 63.
Il pose une main sur la rampe, s'accroche à la voix d'Éric et poursuit sa descente. L'escalier en colimaçon tourne comme une foreuse vers les profondeurs de la terre.
58. 57.
Son regard capte une empreinte de main sale sur la rampe. Malgré sa respiration de plus en plus calme, il accélère le pas. Il a l'impression d'être aspiré vers le bas. Le bruit métallique de ses pas résonne, se tord, tourbillonne dans le puits comme un écho sans fin.
Tu descends, et à chaque pas, tu es un peu plus détendu, un peu plus absorbé par ma voix. 43 42
Hugo court à présent, agrippé à la rampe. Il sent la force centrifuge le tirer vers l'extérieur de la spirale.
Les fixations de l'escalier vibrent, grincent, tandis qu'un filet de sable s'écoule par le vide central, comme si un sablier invisible s'était ouvert. La voix d'Éric ralentit. Chaque nombre résonne plus profondément. Hugo continue de dévaler les marches. Ça semble sans fin.
14. 13, dit Éric d'une voix monotone. Quand je serai arrivé à zéro, tu seras chez toi, dans ton lit, dans la nuit du 26 novembre. Tu es calme, et tu peux tranquillement observer et nous raconter tout ce que tu vis, car rien ici n'est dangereux. 12. 11.
Hugo écoute la voix d'Éric et perd contact avec son corps alors qu'il dévale l'escalier 4 à 4.
3 2 1 0. Et maintenant, tu es allongé dans ton lit et on est le 26 novembre.
Hugo s'arrête brusquement et ferme les yeux.
Il est environ 1 heure du matin. Tu dors. Mais quelque chose te fait ouvrir les yeux.
Il ouvre les yeux et fixe la pénombre de sa chambre bleu clair, le store baissé avec des constellations étoilées. Son cœur bat fort. Hugo est resté immobile dans son lit, la main sur la bouche pour ne pas être découvert. Mais maintenant, les rafales d'armes automatiques et les cris ont cessé. La section a quitté la maison. Dans un cliquetis de fusils automatiques et d'ordres lancés, ils sont descendus pour rejoindre leur SUV noir. Seul leur chef tarde à quitter l'étage. Hugo sait qu'ils doivent fuir. Ses parents ont vidé leur compte bancaire afin de transférer toutes leurs économies. Hugo quitte son lit sans faire de bruit, avance jusqu'à la porte sur ses jambes tremblantes et jette un coup d'œil dans le couloir. Son père est agenouillé, en larmes, tentant d'expliquer qu'ils ont déjà tout donné. Mais l'homme squelette ne veut rien entendre, il exige encore plus.
« Il y a de l'argent et un peu d'or dans l'armoire au grenier, » dit sa mère. « Mais c'est pas grand-chose, c'est... »
L'homme squelette frappe son père à la tête avec une pelle. Sa mère hurle jusqu'à ce que sa voix se brise. Les coups continuent, de plus en plus sourds et étouffés.
« Il frappe, il frappe, il frappe !»
murmure Hugo, presque inaudible.
« Il y a tellement de sang !»«
Qui frappe ?» demande Éric.
« Le squelette !»
Hugo recule lorsqu'il voit l'homme squelette sortir de la chambre de ses parents, traînant la pelle derrière lui. Il commence à monter les escaliers vers le grenier. La pelle résonne lourdement contre les marches. Hugo quitte sa chambre, traverse rapidement le couloir et croise le regard de sa mère par la vitre de la porte. Un bruit mat retentit quand l'homme squelette force la vieille armoire du grenier avec sa pelle. Sa mère lui fait signe de venir.
« Où es-tu ? » demande doucement Éric.
Je veux pas !»
répond lentement Hugo en s'humectant les lèvres. Sa mère semble confuse. Elle a des éclaboussures de sang sur le visage. Hugo attrape sa main et l'entraîne en bas du grand escalier jusqu'à la bibliothèque.
« Tu es toujours chez toi ?» demande Éric.
« Maman n'arrive pas à ouvrir la porte d'entrée !»
murmure Hugo.
« Je veux pas mourir. On doit sortir. Courir. On doit se cacher. »
« Hugo, écoute maintenant. Écoute ma voix, » dit calmement Éric. « Ce n'est qu'un rêve. Un rêve que tu peux contrôler. Tu es dans l'entrée, tu veux courir dehors, mais au lieu de ça, essaie de te calmer. » Retrouve une respiration paisible. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Rien ici n'est réellement dangereux. Tu es totalement en sécurité. Et tu peux te retourner sans crainte.
J'entends la pelle racler contre le sol carrelé derrière moi.
Retourne-toi.
Maman arrive enfin à ouvrir la porte et court dehors.